l'interdiction du sang. Et dans tous les cas, et cette loi porte sur les animaux mammifères et les oiseaux. Alors, troisièmement, ce battage de l'interdiction du sang, mais l'interdiction des graisses de déchets et de tout ce qui est déchets dans le corps de l'animal, nous l'avons vu. Et enfin, quatrièmement, l'interdiction de ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, le nerf sciatique, et qui est en réalité un nerf qui innerve la cuisse de l'animal, et qui est celui qui est rattaché à l'innervation des organes sexuels. Vous vous souvenez que nous avons suivi le même principe explicatif dans toutes ces lois, jusque-là. C'est-à-dire tout ce qui est tamé, c'est ce qui est déjà un effet constitué. C'est ce qui est le véhicule biologique de la caractéristique spécifique de chaque espèce, de chaque individu à l'intérieur de l'espèce. De ce point de vue, donc, ce qui est déjà de l'être devenu, et qui n'a pas d'advenir, si j'ose dire, est déclaré tamé. Ce qui est encore de l'être à venir, de l'être en devenir, est déclaré tamé. Bien. Avant d'aller plus loin, tout à l'heure je reprendrai les différentes tentatives d'explication générale, mais nous allons en tout cas suivre ce même principe. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas là une disposition purement symbolique. Je veux dire, il y a substantiellement une différence de nature entre la substance qui est cachère à manger et la substance qui est interdite à manger. Est-ce que c'est bien clair? Ça, c'est la base même. C'est-à-dire la définition que nous donne l'adjectif taro ou l'adjectif tamé concerne la substance même de la nourriture. Mais sur cette base, il y a d'autre part une relation au néfesh de l'homme, c'est-à-dire une relation à la conscience de l'homme même. Et je veux dire, dans l'instant de l'acte de nourriture, il n'est pas nécessaire que l'on ait présent à l'esprit la raison particulière de telle interdiction de mélange ou de telle prescription de séparation. Mais il suffit qu'il y ait la catégorie générale tamé taro. Mais indépendamment du fait que mon identité biologique se constitue substantiellement de la nourriture, et donc il y a introduction au niveau de la substance de quelque chose qui est taro, donc permis, tout ce qui serait interdit dans le cadre de tamé, indépendamment de ça, il y a une relation entre la conscience et l'ordre de la nourriture. Ce qu'on appellera, d'une façon générale, on abordera cette catégorie, la kavana est un acte. L'intention qui s'attache à l'acte, c'est-à-dire la signification qui s'attache à l'acte. Il n'est pas nécessaire, quoique cela est souhaitable, qu'au moment où un juif mange cachère, il est présent dans sa kavana la signification du comportement, du fait que manger ainsi et pas autrement a une signification précise pour la pureté de sa conscience. Il suffit qu'il y ait une kavana globale. La nourriture définie, censée être ou connue comme étant cachère, est celle qui est la nourriture terora et celle qui est interdite vers la nourriture terminale. Je veux dire, il suffit qu'il y ait une kavana globale, générale. Ça vaut pour l'ensemble des mitzvot. Il n'est pas nécessaire qu'au moment où j'agis l'acte qui est l'acte de la mitzvah, j'ai présent à l'esprit la kavana exacte de la signification de l'acte, sinon je n'aurai jamais le temps d'agir. Donc il suffit qu'il y ait une kavana globale. Mais là, je veux aborder un cinquième principe où la kavana prend le pas sur la substance elle-même, si j'ose dire, où la signification de la kavana, de la raison pour laquelle la nourriture devrait paraître ainsi et pas autrement, prend le pas sur le problème de la substance à proprement parler. Et là, c'est la cinquième règle de l'interdiction du mélange entre le lait et la viande. Je vais devoir préciser sur quoi porte cette règle et ensuite étudier sa signification. Alors, vous rappelez le principe que je vous ai déjà cité la dernière fois. Il s'agit bien entendu d'une viande qui est cachère pour elle-même, d'un lait qui est cachère pour lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'un lait cachère? C'est le lait qui provient d'un animal ou d'une espèce permise. Hein? Et donc, la viande, en effet, voit ça. La viande est permise, le lait est permis, c'est le mélange qui est interdit. Et nous avons dans les dans les sources, nous avons trois références dans la Torah avec le même verset. Je vais mettre le verset au tableau. Littéralement, c'est le verset qui se traduit : tu ne feras pas cuire. Guédi, on traduit un chevreau, mais tout de suite je vais préciser de quoi il s'agit. Dans le lait de sa mère. Le chat est très clair : tu ne feras pas cuire un petit animal dans le lait de sa mère. Et ce verset nous peut donner trois. Première précision : la traduction de Guédi par chevreau est une traduction que vous trouverez habituellement, mais elle n'est pas précise. Guédi, ça désigne un âge du petit de l'animal. Le premier âge s'appelle Guédi. Que ce soit le petit de la chèvre, alors c'est le chevreau, ou le petit du mouton, c'est l'agneau. Vous comprenez ? Guédi Aez, c'est le chevreau. Guédi Keves, c'est l'agneau. Guédi, c'est un âge. Et le sens chat, je vais l'expliquer globalement. Nous avons une loi concernant les sacrifices. Il est interdit d'offrir en sacrifice le même jour un animal et son petit. C'est-à-dire, d'autre part, nous avons une deuxième loi qui est interdit d'offrir au sacrifice un animal avant le huitième jour, pendant les sept premiers jours de sa vie. Et donc, à la limite, et cela vient, cette explication vient du fait que cette prescription nous est donnée trois fois à propos des fêtes de pèlerinage et de l'inscription des sacrifices correspondants aux fêtes de pèlerinage. Alors, à la limite, on aurait pu supposer qu'un animal qui est encore littéralement dans le lait de sa mère, c'est-à-dire qui tète encore sa mère, serait considéré comme pas propice au sacrifice et par conséquent n'existant pas par lui-même, et donc pourrait être mangé en même temps que la mère. C'est la raison pour laquelle la Torah nous donne une précision de ne pas manger un guédi, un petit animal, encore dans le lait de sa mère, c'est-à-dire tétant encore sa mère. Et ça se rattache au lait des animaux. Ça veut dire que le principe de la séparation entre le lait et la viande est une règle générale qui a comme point d'appui dans les dispositions particulières des mitzvot de la Torah, cette disposition-là. C'est-à-dire c'est un cas limite où on aurait pu croire que c'est permis et la Torah vient interdire. Mais le principe général de l'interdiction du mélange entre le lait et la viande ne vient pas de ce verset. Il provient d'une tradition orale. La Torah y fait allusion au fait qu'en général, on ne mélange pas le lait et la viande. À propos d'un cas particulier, on aurait pu croire que ce serait permis. C'est-à-dire que tant qu'un guédi est encore dans le lait de sa mère, je ne sais pas dans quel animal ça s'appelle un cabri. La chèvre, okay. Donc ce qui est interdit, c'est le cabriolet. Les commentateurs expliquent dans les sociétés antiques, c'était considéré comme, je ne sais pas comment dire, une friandise, la viande d'un cabri, cuite au lait. Et que c'était une des coutumes des peuplades de l'Antiquité de préparer ce repas pour le sacrifice de la terre. Comment ? Ça existe encore ?
Les plats de cuisine qui sont faits
de la mer. Et donc la Torah a fait allusion à cela à propos des commandements des fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire que ne faites pas l'erreur de croire que suivant la Torah chez Birkar, uniquement le chevreau et le lait de sa mère sont interdit. Ça, c'est le cas particulier dans l'ange des sacrifices. Un guédi qui n'a pas encore 8 jours, on pouvait croire que ce n'est pas de la viande, puisqu'il est encore dans le lait de sa mère, et la Torah vient quand même interdit. En se rattachant à toute autre règle, qui est une règle de morale générale, qu'on n'a pas le droit d'abattre le même jour une mère et son petit, ou un petit et sa mère. La règle corollaire, que dans tous les cas, un animal ne peut pas être abattu avant le 8e jour. N'est pas propre à la consommation ou au sacrifice. Et là, puisqu'il y a trois fois ce verset, alors la halakha est établie de la manière suivante. Il est interdit de faire le mélange, même si on ne le mange pas. Il est interdit de cuire le mélange, même si on ne mange pas, et il est interdit de manger le mélange. Ces trois précisions nous sont données par le contexte des trois fois où ce verset se trouve, l'Ote Bachel Gedi, Bachalé Bigou. Bien, le sens général, c'est de la. Ici, c'est la distinction de deux ordres de vie dans la nourriture. La nourriture qui va dans le sens montant de la vie, le lait étant la nourriture de la chair, et la nourriture qui va dans le sens descendant de la vie, c'est-à-dire ma chair procédant du lait. Et il y a là deux polarités de la relation de nouveau à la vie et à la mort qu'il s'agit de distinguer. Alors, c'est là que vous avez un peu plus analysé tout à l'heure à propos de la caractéristique. C'est-à-dire, ce sera d'ailleurs un principe général, je prends un niveau beaucoup plus général. La tradition est menée à mettre par écrit des évidences qui, dans un temps plus antérieur, n'avaient pas été mises par écrit parce qu'elles étaient expérimentées de façon immédiate. C'est-à-dire, le contraste qu'il y a dans l'ordre de la nourriture entre manger d'une nourriture vivante qui donne la vie, le lait, et d'une nourriture déjà morte, qui a vécu à partir du lait et devenu la viande, ce contraste était perçu intellectuellement, spirituellement, psychiquement de façon profonde. Nous ne sommes plus capables de le percevoir de façon évidente, sauf, comme je vous l'ai dit, et c'est un point d'appui très important pour ce type d'analyse, sauf dans des cas psychiatriques où des phobies apparaissent. Ce qui montre bien que dans l'inconscient, ces catégories ont été refusées. C'est-à-dire la hantise, la phobie de mélanger. Par exemple, le cru, les choses qui sont le plus étudiées actuellement, qui sont des signes, vous voyez, ce sont des tendances naturelles de l'instinct de vie qui, lorsqu'ils sont poussés à la limite du pathologique, mettent en évidence quelle était la structure qui a été refoulée. Comment l'expliquer ? C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur ces cas cliniques pour mettre en évidence le principe suivant. L'homme traditionnel, l'homme qui a vécu encore le temps traditionnel, c'est-à-dire qui avait une intensité psychique qui n'est plus aujourd'hui que le propre des sociétés dites primitives qui perçoivent encore ces réalités, les a refoulées dans l'inconscient. Et par conséquent, l'explication que je suis en train de vous donner là, que le fait de mélanger deux ordres de nourriture, l'une est dans le sens du lait et l'autre dans le sens de la viande, rend impure la conscience qui veut se garder dans le principe du monopole. De la distinction des esprits, de la distinction des polarités, de la distinction des substances. Et voilà pourquoi j'explique de cette manière, parce qu'il est bien évident que pour du coup culinaire contemporain, on ne perçoit plus cela. Mais c'est la cabana immédiate, profonde, de cette interdiction. C'est quelque chose qui va tellement de soi que il n'y a pas le mettre par écrit. Alors on a commencé à le mettre par écrit lorsqu'on a diagnostiqué qu'on avait perdu cette perception immédiate. Vous en avez absolument. Vous ne trouverez pas de trace d'un commandement de la Torah écrit qu'il faut se couvrir la tête. Et là, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va tellement de soi que ça n'a même pas à être mis par écrit. Pas plus que vous trouverez dans la Torah qu'il faut se mettre des caleçons. Des caleçons. Ça va tellement de soi que c'est pas la peine de... Alors on trouve quand même un verset que le prêtre doit avoir des crissons quand il marche, il monte sur les marches de l'autel. Et donc là, il y a un cas particulier de la sainteté du prêtre. Mais je veux dire d'ailleurs comment, au fond, sous forme de blague, on parle de ces choses-là. Mais d'abord, le principe. C'est-à-dire, ce sont les dernières générations qui ont besoin de plus de choses mises par écrit, parce que beaucoup plus d'évidences ont été perdues. C'est-à-dire, le fait qu'on ait besoin de plus de livres, ce n'est pas le signe d'une plus grande connaissance. C'est le signe d'une atrophie de la connaissance, alors on doit mettre par écrit. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, si vous comprenez bien ce principe, alors vous comprenez qu'est-ce que c'est une traduction orale. C'est quand on doit la mettre par écrit, c'est qu'elle est en danger, alors on la met par écrit, en danger d'être oubliée. C'est-à-dire, les anciens avaient besoin de moins de livres, parce qu'ils avaient une mémoire plus lucide, et surtout, une perception d'évidence qui allait de soi. Aujourd'hui, on est obligé de nous enseigner à découvrir des évidences qui étaient des données immédiates de la conscience dans les temps immédiats. Voilà quel est le principe. Et c'est assez important, je parlais un peu de la culpa. Il y a là une différence Alors j'ai une différence de sensibilité à ce problème de la Kippara en milieu ashkénaze et en milieu sfarade. Vous avez dû remarquer ça. En milieu sfarade, il y a moins de mystique à ce sujet qu'en milieu ashkénaze. Parce que en milieu ashkénaze, non seulement c'est une mitzvah parmi les autres, dont je vous parle comme tel, mais c'est devenu un symbole. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que le milieu ashkénaze a vécu en milieu chrétien. Or, à la fondation du christianisme, le signe, c'est écrit en tout cas dans les évangiles, le signe qu'on rejetait la loi, la souveraineté de la loi, était le fait de se détruire, d'enlever le caractère. Et c'est une donnée qu'on trouve dans les écrits de Paul. Quoi qu'il y ait un paradoxe, vous remarquez que les prêtres chez les Goïms ont gardé la kippa, et plus ils sont hauts dans la hiérarchie, plus leur kippa est cachée, d'ailleurs. Une kippa est cachée quand il est doublé. Il y a quand il est vraiment un chapeau. C'est comme ça. Avec une kippa. Maintenant, il y a un problème avec les kippotes tricotées, là, les kippotes trop grosses. Il paraît qu'elles sont cachées. mais enfin, en milieu de Sfarad, on était habitué à avoir une kippa doublée, un vrai chapeau. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. La différence. En tout cas, pour que le kippa soit cachère, il faut qu'elle soit suffisamment large. C'est-à-dire qu'elle couvre vraiment le crâne. Et pas ce petit machin symbolique que vous avez sur le crâne, là, les pièces de sensu.
Mais d'où ça provient sur la grande.
Hein?
La grandeur de propriété.
Comment de propriété?
C'est pas vrai, mais c'est la différence.
Oui, vous l'avez. Prenez attention. Il y a toujours un raté de la conscience religieuse lorsqu'un rite devient un symbole. On se couvre pas symboliquement la tête, on se couvre la tête. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Par conséquent, c'est pas un symbole, c'est vraiment que l'on voit un chapeau. Et je dire. Alors, je vous explique, c'est un des principes. On trouve que les choses les plus importantes de l'évidence hébraïque ne sont pas par écrit. Par exemple, sans étudier la pour lui-même, le fait qu'il n'y a pas d'allusion dans toute la Torah qui est un monde aveugle. Vous remarquez, aucune allusion. C'est l'essentiel, il n'y a pas d'allusion. Je vous dis une explication simple. Parce que s'il était nécessaire de mettre ça par écrit, c'est que ce n'est pas à moi qu'on parle. La Torah ne parle qu'à celui qui est dirigé vers le monde à venir. S'il faut d'abord lui dire, sache, premièrement, il y a un monde à venir, c'est que ce n'est pas à l'hébreu qu'elle parle. Est-ce que vous comprenez ? J'ai compris le principe. Okay. C'est-à-dire, ça s'est chargé de ce sens-là, la kippa en milieu ashkenaz, il en résulte que ça devient le Even Borchen, la pierre de touche de l'essentiel. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, ah, moi je ne crois pas qu'il y ait un monde à venir, parce que ce n'est pas écrit dans la Torah, alors ça veut dire qu'il n'est pas hébreu. Parce que s'il faut lui écrire cela, c'est que ce n'est pas à lui que celui s'adresse. Est-ce que c'est clair? Et les deux en plus, c'est une mauvaise parole, parce que ça veut dire qu'il croit dans tout ce qu'il a écrit. Alors en général, celui qui ne croit pas dans l'essentiel, c'est qu'il croit dans rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas mauvaise parole. Je veux dire, ah, si c'était écrit, il croit. Très souvent, on me pose des questions comme ça quand je donne une explication qui est encore orale. Et alors, on me dit, oui, mais où c'est écrit? Alors, il répond, mais c'est pas encore écrit, mais je vais l'écrire, comme ça, dans 200 ans, tu pourras le lire, ça sera écrit. Donc, voilà, c'est clair. Voilà quel est le point. Et après, je reviens sur cette superstition de l'écriture. J'en ai déjà parlé. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que ça a été écrit. C'est tout à fait la même. C'est-à-dire, méfiez-vous de la superstition de l'écriture. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas l'écriture, comme on dit en français, c'est-à-dire la Bible, les écrits, on dit mal l'écriture. Si on ne sait pas lire, ça doit être écrit, ça a une valeur. Il faut le lire. Est-ce que c'est clair? Mais faites attention à ce principe. Il est arrivé comme cela, que finalement, la Torah a jugé que l'essentiel ne devra jamais être mis par écrit. Et celui qui a un problème, de ce point de vue-là, c'est précisément la pierre de touche qu'il n'est pas inséré dans cette tradition. Du point de vue des évidents. Or, nous vivons un temps, ça a commencé déjà il y a quelques siècles, où l'histoire, le sort que l'histoire a fait aujourd'hui, les a menés, par une assimilation culturelle et spirituelle, à perdre la source des évidences hébraïques. C'est la raison pour laquelle il a fallu mettre la lumière. Est-ce que c'est clair? Comprenez ce que je veux dire? Du point de vue du jugement absolu, de la responsabilité par rapport à la connaissance ou la non-connaissance, surtout après le drame de la Shoah, l'habitude des tribunaux rabbiniques, c'est de considérer qu'il y a irresponsabilité si on ne sait pas. Et par conséquent, une erreur qui vient du fait que l'on ne sait pas n'est plus tenu compte. C'est-à-dire, on considère qu'il y a, je vous donne un exemple, si vous voulez, aujourd'hui, je prends l'exemple de la plupart pour l'analyse. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que Rabbi Zalman vous en a parlé. Bon, enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais vous reconnaîtrez. Je veux dire surtout pourquoi, en milieu sfarade, on voit, sauf dans les familles très pieuses, le fait de porter une kippa n'était pas seulement une mitzvah pour elle-même, mais aussi un peu comme en milieu ashkenaz, le symbole de l'ensemble de la pratique des mitzvot. En milieu sfarade, on a moins prêté attention à cela. Le fait qu'on soit découvert, ça ne voulait pas dire forcément qu'on relevait la Torah. Tandis qu'en milieu ashkenaz, c'est le sens symbolique que cela. Je vais vous expliquer que c'est pourquoi c'est justifié. Et aujourd'hui, dans la vie israélienne, c'est le style de vie ashkenaz qui a pris le pas. Donc il est pratiquement adopté même chez les sfarades. Si vous voulez, en milieu sfarade, le fait d'avoir la découvert constamment, c'était un signe de piété exemplaire. Ça ne voulait pas dire qu'on n'était pas pratiquant de la Torah. Si on était découvert. Mais le juste pur avait, c'était le signe d'une piété particulière. Tandis qu'en milieu ashkenaz, c'est le signe fondamental qu'on admet la Torah ou qu'on la rejette tout entière. C'est dommage qu'il en soit arrivé ainsi. Parce qu'à partir du moment où un comportement se charge symboliquement d'un engagement aussi total, alors ça fait un handicap. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà pourquoi c'est arrivé, parce que le symbole du schisme chrétien par rapport à la Torah, c'était le fait d'enlever la foi. Et ça se rattache à l'expression suivante, qui est Paul Marzout, Shamaï. C'est-à-dire que la Kippa est le signe de Paul Marzout, Shamaï. Alors je vais prendre les Orlan Chavaïn, ça veut dire que je reçois sur moi la souveraineté de la Torah. Vous avez les trois lettres du schéma. Orlan Chavaïn. Alors, premièrement, ça fait partie du comportement des sémites en général. C'est d'abord une donnée, je ne vais pas dire ethnique, c'est beaucoup plus général que cela, c'est une donnée de la piété sémite en général qui va de soi comme préalable, et c'est vrai aussi chez les musulmans. La règle chez les musulmans est qu'on n'a pas le droit d'avoir un chapeau ni une visière. C'est-à-dire, dans ce détail-là, les musulmans sont plus stricts que les juifs, d'une certaine manière. Le sens général, c'est que le fait que j'ai la tête couverte, ça veut dire que je reconnais que j'ai un supérieur, que j'ai un souverain. Et étant donné que c'est le front qui représente le signe de la liberté dans la culture sémite, donc, chez les musulmans, ça va jusque-là, c'est pourquoi ils ont des chéchias, des turbans qui sont toujours sans visière. Là, nous avons une règle de civilisation complètement différente. Chez les orientaux en général, le chapeau est un chapeau lourd et les souliers sont des souliers légers. Tandis que chez les occidentaux, c'est l'inverse. Les souliers sont lourds, pieds noirs. Vous savez qu'on appelait les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, les pieds noirs, ils avaient tout simplement les souliers de cuir. C'est ça que ça veut dire, les pieds noirs. Et alors que nos ancêtres, mon grand-père, on était encore habillé à l'oriental, il y avait des babouches et pas de souliers. C'est-à-dire les pieds doivent être à l'air et la tête doit être protégée. Chez l'occidental, c'est l'inverse, c'est la tête qui est en l'air et les pieds qui sont protégés. Déjà, si vous voulez une perception de l'hygiène très différente, à la base fondamentale. Mais une deuxième chose, ce qui nous explique pourquoi en milieu ashkenaz, ça a pris une telle signification. Je dis qu'avant maintenant, on le vit tous en milieu ashkenaz, mais pour expliquer pour ceux qui se souviendraient encore qu'en milieu sparade, on était moins strict à ce sujet. Ça n'avait pas cette valeur symbolique-là. Avec deux choses. Donc, le fait que le signe de la politesse en Occident, de façon très. Dans les temps déjà très reculés, c'était de se déganter et d'enlever le casque pour montrer qu'on n'avait pas d'intention guerrière. C'est-à-dire que les gens étaient casqués, dégantés, de l'enfer. Hein. Et alors, montrer qu'on venait avec des intentions pacifiques, on enlevait le bras, on tendait la main nue et on enlevait le casque. C'était des coutumes qui ne sont pas connues en Orient. Et en Orient, l'oriental ne sert pas la main pour dire bonjour. Hein. Il fait un signe de respect. Suivant comme ça chez les hindous, comme ça chez les sémites, mais le fait de tendre la main, à l'origine, c'était le signe d'une situation très guerrière. Je n'ai pas d'intention guerrière, je tends la main nue, sans le gantelet de fer, et j'enlève le casque. Vous voyez à peu près pourquoi. J'ai pas de sensibilité, de civilisation, très souvent, un juif est gêné d'être couvert en milieu occidental, parce que c'est pas poli de rester la tête couverte. Mais en milieu oriental, c'est très impoli de se découvrir. C'est le signe de l'insolence en milieu oriental. Et vous voyez que c'est exactement une sensibilité complètement opposée. C'est bien clair. Bon, ça c'est un exemple de choses qui vont de soi et qu'on est obligé de mettre par écrit très tardivement. Alors, voilà pourquoi en milieu ashkénaze ça a pris une telle importance. Parce que c'était le signe qu'on était ou chrétien. Prier couvert, ou prier découvert, c'était le signe qu'on faisait partie ou de la synagogue ou de l'église. Comprenez ? Bien. Alors maintenant, je vais vous expliquer. C'est une mitzvah pour elle-même. Ça n'a pas beaucoup de sens qu'on se met une kippa quand on mange parce qu'on veut une bracha, on se met une kippa quand on va réciter, etc. Cette mitzvah est en général ainsi. Et en milieu sparade, et même aussi dans les anciennes communautés ashkénazes, l'établissement des Chachamim, le signe de la piété supplémentaire, c'était que non seulement on avait bien entendu le chapeau, mais on avait un voile sur la tête. Vous avez peut-être vu encore des photos d'anciens rabbins qui ont encore le souda, comme on l'appelle, le voile sur la tête. Ça, c'est l'Ouda Chachim. Et il y a de la bien. Ceci, je voulais citer comme exemple que. Il y a souvent, comme ça, dans les mitzvot, que les mitzvot qui touchent à l'essentiel même de la foi ne sont pas mises par écrit. Je prends par exemple donc cet exemple massif de l'indication d'une. On aura certainement l'occasion d'étudier cela. La Torah ne parle que de cela, mais ne dit pas explicitement. L'explication est la suivante, c'est l'explication que les kabbalistes donnent. S'il faut que la Torah le dise qu'il y a un Olam Haba, c'est que ce n'est pas à moi qu'elle parle. Dans un bréviaire dont Israël se servira pour enseigner sa foi aux non-juifs, alors il y aura premièrement qu'il y a un monde à venir. Mais le livre qui s'adresse à Israël, s'il comportait cet enseignement, ça voudrait dire que ce n'est pas Israël qui s'adresse. Est-ce que c'est clair ? Je formulerai de la manière suivante. Dans le courant de l'histoire de l'humanité, apparaît une manière d'être homme qui est dirigée vers le monde à venir. Alors la Torah se révèle à lui, à elle, et lui dit, ben voilà comment. Mais s'il avait à donner ce préalable, une fois l'exemple suivant, si vous devez donner un manuel à un pompier, un manuel du parfait pompier, et que vous commencez par lui dire, premier article premier, le feu, ça brûle, c'est que ce n'est pas un pompier qui vous adresse. Vous entendez plus. Vous pourrez comprendre ça un peu comme ça. Alors voilà la blague juive concernant. La kippa, on a demandé à un rabbin, mais où il y a écrit qu'il faut se mettre une kippa. Alors il a répondu par un verset où il y a écrit, et Jacob s'en alla en voyage. Ah, il dit, mais qu'est-ce que ça prouve? Jacob est allé en voyage, je me dis, ça. Il regarde bien, tu vois Jacob partir en voyage et tu le vois partir cette nuit. Et c'est pas une blague, c'est la vraie réponse. Essayez d'imaginer, Jacob avec une tête nue. Vous voyez, c'est clair. Bon, je reviens donc pour ce problème de l'exemple que je vous ai donné. Vous voyez, mon cher Abel, sans chapeau, ça c'est les calanges, ok. Et encore, quel ange, on ne sait pas exactement. Il en est ainsi pour cette disposition du lait et de la viande. De la différence entre les deux, c'est clair. C'est la raison pour laquelle il y a donc deux essais. Et là encore, je vais vous rappeler une différence qu'il y a en milieu ashkénaze et en milieu sfarad. Mais maintenant, la plupart des familles sfaradites vivent en milieu ashkénaze, on prie. Chez les sfaradites, il y avait une seule vaisselle, parce qu'on ne mangeait pas de repas au lait. Il n'y avait que la vaisselle de viande. Et puis, il y avait des ustensiles en bois dont on se servait pour le repas lacté, c'était très très rare. Le couscous au beurre ou des friandises de ce genre. Mais on ne mangeait que dans la vaisselle de viande. Le repas, c'était un repas de viande. Mais en fait, retenez qu'il y a donc trois principes. Il y a l'interdiction de faire un mélange de viande et de lait. Par exemple, pour faire un soulage, pour s'en servir pour un soulage quelconque. C'est-à-dire, c'est interdit de faire le mélange, même si ce n'est pas pour le manger. D'autre part, c'est interdit de cuire le mélange, même si ce n'est pas pour le manger. Une autre fois, une autre interdiction, et troisièmement, il est interdit de le mélanger. Il en est dit, du coup, lors de la nourriture à proprement.